Amen. Bonjour tout le monde. Merci pour vos prières et aussi merci pour la présence de chacun, chacune. Ça a été pour moi une semaine vraiment chargée d'émotions et aussi de rencontres avec les différents responsables au niveau de l'Église et au niveau de CAF. Et avant tout de rentrer dans la méditation de la parole ce matin, j'aimerais juste vous laisser un témoignage sur lequel j'ai pu travailler pour qu'on puisse vraiment nous exhorter ce matin. Et cette semaine, peut-être certaines personnes le savent, j'ai perdu un frère au niveau de notre village, un frère de village, mais c'était quelqu'un qui m'était très proche du fait que, voilà, je lui partageais l'évangile et chaque fois quand je le partais, il y avait l'occasion de se rencontrer et je lui parlais de Jésus et lui aussi, il me parlait en tout cas de tout ce que, voilà, ce que le Seigneur Dieu faisait dans sa vie. Et son intention aussi de d'ouvrir vers l'évangile. La dernière fois, je me souviens qu'il m'a dit, Abdoulaye, prie pour moi avant de partir. Tu ne peux pas partir sans prier pour moi. Et effectivement, j'ai prié pour lui et je lui ai dit, mets ta confiance au Seigneur. Et là, lorsque je suis parti, il n'y a même pas un mois, il m'a envoyé un message en disant, tu sais qu'au village, nous sommes cernés par des terroristes et donc actuellement, il n'y a pas de militaires qui est vraiment proche. Donc, nous sommes obligés de nous engager parmi les volontaires pour sécuriser le village. Et il m'a montré une photo en disant, voilà. Si je suis engagé, c'est parce que je veux protéger mes parents, ma famille et aussi ta famille. Et je lui ai dit en rigolant, tu sais, c'est le Seigneur qui protège. Confions-nous à lui et espérons en lui. Et merci pour ton engagement. Et avant-hier, c'est mercredi, j'ai eu un coup de téléphone qui me disait que, voilà. Il a été touché par les terroristes et il est décédé. Et là, en lisant la parole, je me suis posé trois questions. La première question, pourquoi il a décidé de rentrer dans ce combat pour défendre les siens et en sachant que peut-être il y a la mort devant lui, parce qu'il était conscient, il était lucide dans son engagement et il m'a dit, je sais que je peux mourir, mais je ne peux pas laisser mes parents mourir comme ça. Et deuxième question, je me suis posé la question, pourquoi il y a eu tellement de failles dans cette situation. Et il m'a dit, par rapport à ce qu'il m'a dit, il m'a dit que, en fait, lui, il ne craint pas les terroristes, mais lui, il craint ce que les personnes, les ennemis internes du village, parce que dans le village, il y a aussi des ennemis internes qui ne veulent pas, qui ne se disent pas, qui ne se prononcent pas, mais qui savent où ils vont. Et quelle stratégie ils adoptent. La troisième question que je me suis posée, comment peut-on vraiment dans une communauté, dans toute communauté, demeurer d'une manière soudée et affronter l'adversité qui arrive? Et je suis arrivé à la. À me dire que dans toute communauté, s'il n'y a pas d'unité, c'est vraiment des brèches ouvertes pour l'ennemi et l'ennemi peut vous assaillir à tout moment. Que ce soit une petite communauté ou une grande communauté, les choses sont les mêmes. Il faut de l'unité, l'unité que ce matin j'aimerais nous partager, de l'unité. L'unité entre chrétiens, frères et sœurs, l'unité en Église, l'unité partout où nous sommes, c'est l'unité qui peut nous donner la possibilité de résister aux assauts de l'ennemi, à toutes ses manœuvres. Nous allons lire pour cela 1 Corinthiens 1, versets 10 à 16. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 16. Si vous avez retrouvé, nous allons lire 1 Corinthiens 1, versets 10 à 16. Je lis. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. 1 Corinthiens 1, 10 à 14. En nous appuyant sur ce texte, nous allons essayer de voir comment Paul s'adresse à cette église de Corinthe pour les amener dans une réalité de ce que il veut comme la manière dont il veut vraiment les amener à vivre l'unité en Christ. L'unité, comme je viens de donner dans mon témoignage, est essentielle dans la vie d'une communauté. Une communauté qui est unie est une communauté qui va triompher, qui va avoir raison sur l'adversité extérieure. Si la communauté n'est pas unie, l'adversaire peut à tout moment pénétrer, s'infiltrer et vraiment faire des dommages. Donc, pour cela, je vais partager mon écran et après, nous allons essayer de voir les différents points qui peuvent nous aider à avoir cet esprit d'unité au sein de notre Église. Je partage mon écran. Est-ce que l'écran est visible?
Oui.
D'accord.
Oui, c'est bon.
Oui.
Oui, c'est bon.
OK, merci. Voilà, donc, d'abord, unis en Christ. Nous voyons que l'unité est importante et partout dans les églises ou dans le monde, on voit que l'unité est vraiment quelque chose qui fait un lien, une force à une communauté. Même au niveau national, au niveau des États, on parle que si le peuple est uni, réellement, il peut triompher face à l'adversité. Nous voyons ici que Paul, après avoir fait allusion à des problèmes d'immoralité dans l'Église, Paul aborde maintenant des problèmes qui font mal à l'unité, c'est-à-dire les divisions. Les divisions font partie, certes, de l'histoire de l'Église. L'Église est née avec des tensions, avec des divisions. Les épîtres abordent d'une manière ou d'une autre cette problématique dans les églises locales même. Chaque lettre des épîtres vise à traiter un problème. Et la majeure partie des problèmes, c'est des questions, des problèmes de division. En Romains 16, Paul va dire, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Et nous voyons dans ce texte que Paul interpelle ses lecteurs au niveau de l'Église de Rome de faire attention à ceux qui causent des divisions dans les assemblées. Il y en a certains dont leur ministère, c'est créer des divisions. Ce qu'ils ont reçu comme don, c'est aller créer des divisions dans les églises. Et là, Paul intervient en disant de faire attention à ces personnes qui peuvent semer de la division et qui peuvent créer des brèches au sein d'une communauté soudée. Les apôtres, même entre eux, se sont pas toujours entendus. Ils ont eu des différences d'opinion, ils ont eu des conceptions, des principes différents, et cela a causé certainement des frictions entre eux. Mais quelles sont les causes des divisions? On peut se poser la question, quelles peuvent être les causes des divisions au sein d'une communauté? Comment Paul résout ce problème dans l'église de Corinthe? Nous allons prendre ce cas de Corinthe et chercher à comprendre les causes et aussi chercher à comprendre comment Paul prend, quelles sont les stratégies et la façon dont Paul résout ce problème de division à l'église de Corinthe. Si je parle de l'histoire de l'église qui est née dans des divisions ou des apôtres qui ne se sont pas entendus, ce n'est pas pour nous inciter ou nous dire, voilà, c'est normal, mais c'est pour nous dire que nous interpeller d'être attentifs à cela, d'être attentifs à ces situations parce que à tout moment, l'ennemi profite de ces failles-là. Et l'ennemi sait qu'à ce niveau, il a plus de capacités de nuire que dans d'autres domaines. Dans le domaine de la division, il a plus de capacités parce que nous sommes pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes tempéraments, nous n'avons pas les mêmes situations d'aborder les problèmes, nous ne sommes pas les mêmes à encaisser les souffrances, à encaisser les frustrations, et finalement, nos tempéraments peuvent porter des difficultés au sein de l'Église. Donc, deux questions, deux principes que Paul a fait ébaucher ici, qui peuvent nous aider. Paul dit aux Corinthiens de tenir le même langage. Il dit au verset 1, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Le langage compte beaucoup dans le fait de conserver, de tenir l'unité, de ne pas permettre la division, parce que l'ennemi passe par le langage. Et j'ai apprécié le fait que Dani dise « Que le Seigneur te soutienne dans le choix des mots. » L'herméneutique, parce que le mot que je vais prononcer, le mot que je vais choisir pour utiliser peut ne pas convenir, peut ne pas être compris par celui qui est en face de moi. Donc, chaque fois qu'il y a un mot important que nous utilisons, c'est bien que je sois assuré que la personne en face comprend ce que j'ai dit. Si je me mets tout à l'heure à parler en moré ou en djoula, je pense que personne de vous peut-être ne pourra entendre parce que nous ne pourra comprendre. Peut-être une personne comme Aïcha si je parle ou Gaussou ou d'autres personnes si je parle djoula, peut-être quelques mots ils vont comprendre, mais le reste des mots ils ne pourront pas peut-être comprendre tout. Voilà, donc, tenir le même langage. Deuxième principe, conserver l'unité en Christ. Revenir à la réalité de l'unité que Christ a acquise à la croix pour nous et tenir ferme sur cette unité. Tenir le même langage. Une des origines des problèmes dans l'Église, c'est aussi, c'est peut venir de notre langage. Tenir le même langage, qu'est-ce que c'est tenir le même langage? Tenir le même langage, souvent, on peut comprendre la différence entre la pensée unique. La pensée unique, c'est-à-dire tout le monde doit penser la même chose, tout le monde doit dire la même chose, tout le monde doit faire la même chose, et cela n'est pas le cas. Tenir le même langage, ce n'est pas une pensée unique, ce n'est pas une opinion unique, ce n'est pas quelque chose sur lequel personne d'autre n'a le droit de penser ou de voir différemment. Parler le même langage, c'est avant tout comprendre les choses essentielles. Parler le même langage, c'est parler en comprenant les choses essentielles qu'on s'est dit ensemble. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que Paul appelle parler le même langage? Parler le même langage pour Paul, c'est que Jésus, qui est Jésus pour les Corinthiens? Qui les Corinthiens doivent suivre? Qui les Corinthiens doivent vraiment prendre toute leur ardeur pour suivre, pour connaître. Et dans la présidence, Thierry a évoqué le fait de connaître le Seigneur, de connaître davantage qui il est pour moi, qui il est pour mon frère, pour ma sœur. Et si dans ce sens, on arrive à dire ensemble qui est Jésus pour nous, ça veut dire que certainement, ça devient familier pour nous. Certainement, notre langage est commun. Certainement, nous pouvons aller plus loin parce que nous parlons la même réalité, la même chose et nous vivons les mêmes choses. Si les questions fondamentales de ce que l'Église aussi croit, parce que ce que l'Église croit, est important pour sa vie, pour la réalité de sa vie, de toute sa vie. Si l'Église, dans l'Église, il y a d'autres qui croient à des fondamentaux qui sont essentiels dans l'Église et d'autres ne croient pas, ça risque de ne pas parler le même langage. Qu'est-ce que l'Église croit? Pour moi, pour ma sœur, pour l'Église et pour l'ensemble de la communauté, qu'est-ce que nous croyons ensemble? Ça, c'est les valeurs essentielles que l'Église va tenir ferme. Nous croyons en Christ Jésus, qu'il est le seul Seigneur qui a donné sa vie à la croix pour nous sauver, nous pardonner de nos péchés et nous laver de toute impureté. Si nous croyons en cela, ça veut dire que les questions secondaires, déjà, on les écarte. Les questions secondaires ne doivent pas prendre place et créer de la division au milieu de nous. En revoyant ce que Paul dit aux Corinthiens, nous voyons que les Corinthiens, au lieu de centrer leurs croyances sur les choses essentielles, fondamentales pour la vie de l'Église, pour la vie de leur foi, étaient en train de croire en des personnes. Moi, je suis de Paul, et toi, tu es de Apollos, et lui, il est de Pierre. Et finalement, ça divise l'Église en quatre camps. Il y a ceux qui appartiennent à Paul, il y a ceux qui appartiennent à Apollos, il y a ceux qui appartiennent à Pierre et même il y a ceux qui se disent Nous, on n'appartient ni à Paul, ni à Pierre, ni à Apollos. On appartient à Christ. Mais ils sont dans la même attitude, c'est-à-dire la division. Même ceux qui disent, qui se réclament pour Christ, sont déjà dans une attitude de division parce que c'est ils ont fait une séparation d'avec les autres. Et on voit dans Romains 12 que Paul exhorte à ne pas avoir de division. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par des gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. En relisant le texte, on voit clairement qu'il y avait déjà, la division était déjà semée. L'Église, je ne sais pas combien de temps l'Église a pris pour se diviser comme ça, on dit, en se réclamant des apôtres et des serviteurs de Christ, mais je pense qu'ils ont placé toute leur énergie à savoir, à définir qui est qui, au lieu vraiment de croire en l'essentiel et d'avancer ensemble. Parler le même langage, c'est dire et comprendre nos objectifs et avoir le même vocabulaire approprié. En Genèse 11, verset 1, on dit que tous parlaient le même langage. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Genèse 11, verset 1. En voyant cela, je dis, toute la terre parlait le même langage, c'est-à-dire qu'il y avait une unité, ils pouvaient faire les choses ensemble, même si souvent le fait de parler le même langage peut entraîner à rêver plus grand et à vouloir même dépasser ce que Dieu veut, ce que Dieu a déjà mis en place. Et cette unité n'est pas mal. Le fait de parler le même langage, ce n'est pas mauvais. Le fait de comprendre les mêmes choses, ce n'est pas mauvais. Mais c'est le fait de parler le même langage pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu qui peut être encore un autre problème à résoudre. Parler le même langage, c'est s'accorder sur nos principes de fonctionnement. On voit ici Paul qui ne se réclame pas le fondateur de cette église. Je ne sais pas si j'étais Paul, j'étais Paul, fonder l'église, Paul est celui qui a fondé l'église de Corinthe, Paul est celui qui a déposé les fondements de la foi à Corinthe, et ensuite, il a contribué d'une manière ou d'une autre à ce que l'église de Corinthe soit édifié, fortifié et encouragé pour venir à l'aide à d'autres églises de Jérusalem et de Rome. En regardant ces principes, Paul dit simplement que le Seigneur m'a envoyé vers les non-juifs, le Seigneur m'a envoyé vers les païens et je m'en tiens à ça. Je ne cherche pas à dire je vais faire de la rivalité avec Apollos, faire de la rivalité avec Pierre. Non, le Seigneur m'a donné une mission, il m'a donné un appel et je m'en tiens à ses principes. Et c'est pourquoi nous lisons dans le texte qu'il dit, je n'ai pas baptisé d'autres personnes que tel Crispus et Gaius et la famille de Céphas et Stéphanas. Voilà, donc, on voit ici que Paul évite qu'on lui attribue ce qu'il n'est pas. Paul évite de tirer l'attention sur lui-même. Il cherche à tirer l'attention uniquement sur Christ et Christ seul. Et là, nous voyons que les principes de fonctionnement que nous pouvons avoir ensemble en tant qu'Église, c'est important. Parce que les principes de fonctionnement nous aident à ne pas se frotter inutilement, à ne pas créer de la rivalité inutilement, à ne pas permettre que des ennemis extérieurs viennent nous amener dans le frottement, la rivalité et nous mener vers quelque chose qui va créer de la division. L'unité, c'est tenir le même langage. Le même langage, c'est s'accorder et dire et comprendre les choses essentielles. Le même langage, c'est aussi ce que nous croyons ensemble, les choses essentielles que nous croyons ensemble et que nous ne voulons pas tourner nos regards sur des choses secondaires. Nous nous appuyons sur ce que nous croyons ensemble et nous restons là-dessus. Sur les choses secondaires, on essaie de les résoudre d'une manière le plus simple possible. Ensuite, nous avons le même vocabulaire parce que nous voulons aller vers le même but avec les mêmes objectifs. Et aussi, nous gardons le même langage en s'accordant dans nos principes de fonctionnement, comment on fonctionne ensemble. L'évangile n'est pas une opinion philosophique ni une doctrine politique. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Je me demande si à Corinthe, il y avait une élection politique. C'est comme s'il y avait une élection politique et finalement, les uns et les autres se mettent derrière un leader politique pour le suivre, pour dire, moi, je vote Paul, toi, tu votes Pierre et l'autre vote à Apollos. Que le Seigneur nous garde afin que ces choses philosophiques et politiques ne viennent pas se cacher au sein de l'Église et nous amener dans une réflexion où il n'y a pas lieu d'être. Nous sommes des frères et sœurs. Paul rappelle, insiste, que nous sommes tous frères et sœurs, parfaitement unis dans la même famille, avec les mêmes sentiments, avec la même pensée. Et Paul s'appuie sur ça. Paul ne va pas ailleurs chercher d'autres mots ou d'autres vocabulaires. Il dit, nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes unis en Christ. Ensuite, nous sommes dans la même pensée et dans la même famille. C'est comme si vous rentrez dans une famille et vous voyez que la famille est unie. La famille, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de toi, tu es de l'autre côté, moi, je suis de l'autre côté. Nous sommes tous unis, parfaitement unis, ensemble. Conserver l'unité en Christ. Conserver l'unité en Christ. Comment conserver cette unité que Christ nous a acquise à la croix? En regardant ce texte, on peut se rappeler que Paul revient sur les choses essentielles. Les choses essentielles qui ont été acquises, que Christ a acquises pour nous. Il ne cherche pas à encore fabriquer une autre manière de conserver l'unité. Il s'appuie uniquement et simplement sur ce que Christ a déjà fait. Christ n'est pas divisé. Nous qui sommes baptisés au nom de Christ, nous sommes baptisés au nom du Christ crucifié. Si Christ n'est pas divisé, il n'y a pas raison de croire que l'Église va être une Église divisée. L'Église est une et indivisible dans le sens que Christ n'est pas divisé. Christ est au centre de la vie de l'Église. C'est les intérêts de Christ qui doivent être vus, proclamés et recherchés. Trois questions successives. Paul pose ces trois questions successives en disant, est-ce que Christ est-il divisé? Ensuite, est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Ensuite, il pose la troisième question. Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié? Paul recentre l'unité autour de la croix. Le Christ crucifié. Si l'unité Et autour d'autres choses que le Christ crucifié, cette unité va s'effriter, ne va pas durer. Mais si notre unité est centrée, est revenue à Christ crucifié, cette unité a de la valeur et cette unité va être permanente parce que c'est cette unité-là qui va demeurer pour l'éternité. Si on arrive à répondre à ces trois questions, Christ est-il divisé? Non. Christ qui est allé à la croix pour nous, nous allons répondre encore, c'est Christ seul. Et c'est au nom de Christ que vous avez été baptisés. Nous avons été baptisés, nous allons répondre, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Christ n'est pas divisé, ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forme une communauté divine, une communauté qui ne sont pas divisées, qui est une. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Et là, nous voyons que si dans l'Église, nous arrivons à dire que Christ est le seul qui nous unit et c'est le seul qui a payé sa vie à la croix pour nous. Et c'est au nom de lui seulement nous avons été baptisés. Ça veut dire que nous avons vraiment cette fondation de l'unité de notre Église. Troisième élément, nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Apocalypse 3, verset 5 nous dit clairement que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Fondamental. Christ nous a sauvés de nos péchés. Il nous a unis en lui. Ensuite, il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Quel que soit ce que nous allons faire après, ensuite. Et si nous nous fixons les regards sur nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie, nous avons tout gagné. Parce que c'est ça qui va être la finalité. C'est devant le trône de Dieu que lorsque Jésus va ouvrir le livre de vie, qu'il appelle ton nom, mon nom et le nom de chacun de vous. C'est ça qui est essentiel. Si le nom, notre nom sont inscrits dans le livre de vie, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, nous avons tout gagné. Et l'Église a gagné. Et tout ce que nous accomplissons aujourd'hui, ce n'est que pour l'attente de cette espérance future que le Seigneur nous a réservée avec lui. Notre centre d'intérêt, c'est Christ et la recherche de son règne. 1 Corinthiens 2 nous le dit clairement que Christ. Paul dit que je ne veux rien savoir au milieu de vous, si ce n'est que le Christ et le Christ crucifié. Je ne veux rien entendre parmi vous, sinon seulement que le Christ crucifié qui prend toute la place. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si nous tenons ferme à ce principe, à cette réalité doctrinale, que c'est Christ crucifié pour nous qui doit véritablement prendre la place et diriger l'Église et conduire l'Église, tous nos intérêts, nous n'avons même pas d'intérêt dans tout ça. C'est l'intérêt de Christ qui prime. C'est l'intérêt du règne de Jésus qui doit prendre toute la place et honorer nos vies et honorer tout ce que nous sommes en train de faire avec lui, de collaborer avec lui comme des co-héritiers avec le Christ. Ensuite, nous avons le devoir d'aimer Christ et de nous aimer les uns les autres. Romains 12, verset 10 nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Nous voyons dans le texte que Paul a appris la division à Corinthe par la famille de Chloé. en lisant le texte, je me dis, la famille de Chloé, là, peut être peut-être vue d'une manière comme des rapporteurs, comme des gens qui essayent d'aller dire, d'apprendre des nouvelles et aller dire de l'autre côté. Mais finalement, en lisant le texte, on comprend que c'est des personnes qui ne veulent pas que l'Église dérape. C'est des personnes qui alertent. Ce n'est pas des personnes qui partent faire des diffamations. Ce n'est pas des personnes qui partent raconter des choses derrière le dos. Mais c'est des personnes qui veulent alerter Paul que l'Église est en train de traverser des moments difficiles. L'Église est en train d'aller vers l'éclatement parce que déjà, il y a des divisions et des camps au sein de l'Église. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut nous apporter comme vision? C'est l'ensemble de notre Église. Ne soyons pas simplement des rapporteurs. Ne soyons pas simplement des calomnieux. Ne soyons pas simplement des personnes qui cherchent à émettre des divisions au sein de l'Église, de dire qu'un tel est comme ça, un tel est comme ça. Mais soyons des personnes qui alertent, qui sont vigilants, qui savent que ah, il y a un danger qui guette si nous ne regardons pas les choses en face. Que le Seigneur nous aide à entrer vraiment dans cette perspective de conserver l'unité en Christ et de travailler à ce que nous soyons unis ensemble et que les brèches que l'ennemi veut, par lesquelles l'ennemi veut passer, que nous puissions les fermer d'une manière avec sagesse. Nous savons que l'ennemi veut passer par là pour nous amener dans la division, dans des paroles qui ne servent et qui n'ont pas lieu d'être. Alors, nous prenons notre courage en regardant la réalité en face et en disant, l'ennemi, nous te connaissons, nous connaissons tes œuvres, nous savons que tu veux nous diviser, nous savons que tu veux nous amener à faire de la rivalité les uns avec les autres, nous savons que tu veux nous détourner des regards sur l'essentiel qui doit prévaloir au sein de l'Église et nous détournons les regards vers tout ce que tu es en train de mener pour nous diviser. Si j'ai pris l'exemple de la communauté de Corinthe, c'est aussi dans les familles, c'est aussi dans les couples, c'est aussi dans les lieux de travail. Si nous prenons ces principes dans tous les lieux, nous pouvons résister à l'ennemi. En prenant l'exemple du frère a été assassiné par les terroristes, il m'a dit un mois avant sa mort, il a dit, je n'ai pas peur des terroristes, mais j'ai peur des ennemis internes. Parce qu'ils savent quand je viens, ils savent quand je sors, ils savent quand je suis en poste et ils savent tout et ils sont au milieu de nous. Et surtout, ils peuvent nous créer des dangers. Et c'est pourquoi, sur ce témoignage, j'aimerais nous interpeller à l'unité et aussi voir au milieu de nous. Ne laissons pas l'ennemi prendre du poids. Ne laissons pas l'ennemi faire son chemin. Arrêtons-le. Arrêtons-le en disant, Seigneur, prends toute la place. En disant, Seigneur, c'est ton Église. Nous voulons faire découvrir ta volonté et nous voulons faire uniquement que ta volonté. Que ton règne vienne et que seule ta volonté soit accomplie. À la croix, les langages humains et les intérêts humains cèdent à la place de l'unité. À la croix, la diversité culturelle, sociale, politique tombe comme des masques pour faire place à une unité de la famille de Christ. Là où l'ennemi veut passer, c'est la diversité. La diversité d'opinion, la diversité sociale, la diversité culturelle, la diversité souvent des opinions politiques. la diversité aussi, peut-être des intérêts aussi, peut jouer dans ce que l'ennemi veut utiliser. Mais lorsque nous nous concentrons sur l'essentiel, l'ennemi va se déplacer à l'unité et à la vie que Dieu veut dans son Église. Prions et remettons notre Église dans la main de notre Seigneur. Confions notre Église dans sa grâce, toujours que nous puissions voir que l'Église est unie. L'Église avance et l'Église contre tous les projets de l'ennemi afin de préserver cette unité que le Christ a acquis pour nous. Et aussi de tenir le même langage pour la gloire de notre Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour l'unité que tu accordes à ton Église. Merci pour cette grâce que tu nous as fait vivre. Nous savons, Seigneur, que l'unité a été acquise par toi à la croix. Tu as donné ta vie à la croix afin d'unir un peuple, afin de rassembler de toutes les horizons, oui, de toutes les nations, de tous les peuples. Seigneur, un peuple qui te connaît, un peuple qui te sert, un peuple qui est dévoué à toi, un peuple consacré à toi. Seigneur, nous voulons garder ce lien que tu as créé par la croix. Et aussi, Seigneur, aide-nous à renforcer cette unité par l'amour que tu as déversé dans nos cœurs, que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions nous entourer, que nous puissions, Seigneur, nous et fermer les brèches que l'ennemi par lesquelles l'ennemi veut passer pour troubler tes enfants, pour amener les enfants à parler des langages incompréhensibles des uns par des autres et des autres par des uns. Seigneur, nous voulons, Éternel, te confier la vie de l'Église. Comme l'Église de Corinthe, Seigneur, tu as permis à Paul de prendre la décision de les interpeller, de tenir le même langage, d'avoir la même façon, les mêmes intérêts, de chercher à conserver cette unité sur l'essentiel qui les unit, c'est-à-dire Christ. Christ, le seul Seigneur et le seul Dieu, le chef de l'Église qui gouverne son Église vers la destinée que lui-même il veut, Seigneur. Merci pour chacun de mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci, Seigneur, pour la réalité de notre unité. La réalité, Seigneur, de nos sentiments qui convergent vers le même but, Seigneur. Merci de nous garder de tout orgueil, de toute rivalité, de toute parole, de toute vision qui va emmener de la division. Et Seigneur, merci parce que tu vas, Éternel Dieu, conserver ton Église. Tu ne vas pas permettre que ton Église puisse dérouter de la voie, mais tu vas conserver cette unité dans l'amour et dans la paix que toi-même tu as assurée dès le début jusque maintenant, Seigneur. Bénis ton Église, fortifie ton Église, encourage ceux qui sont découragés et permet que, Seigneur, nous puissions, oui, retrouver les mêmes forces pour pouvoir avancer dans la même direction comme notre vision cette année, plein d'espérance, nous marchons dans la même direction. Aide-nous à être totalement engagés dans la même direction, c'est-à-dire dans l'unité de pensée, dans l'unité de nos sentiments et dans l'unité de nos services que nous voulons t'offrir comme une offrande qui te plaise. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur et ton esprit, oui, est au milieu de nous, en train de nous encourager, en train de nous reprendre si l'orgueil veut prendre la place. Et ton Saint-Esprit est en train de nous convaincre aussi de pécher si nous voulons créer de la zizanie ou de la mésentente entre les frères, Seigneur. Aide-nous, Éternel Dieu, à rester à l'écoute de ton Esprit Saint, que que ton esprit continue à nous diriger, nous convaincre et nous remettre sur la bonne voie si nous voulons faire ce qui nous intéresse et non ce qui est de ta volonté, Seigneur. Permets que toute la gloire, la magnificence et l'honneur te reviennent parce que tu es notre Dieu qui nous aime, à celui qui vous a aimé, à celui qui nous a aimé. Et nous confessons cette réalité, que tu nous aimes et tu nous engages sur la même voie pour la cause et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.